Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, dormir à l'hôtel plutôt qu'à l'hôpital.
Ce sera peut-être bientôt possible partout. C'est une proposition de la majorité, plus confortable pour le patient et surtout plus économique. Soirée agitée à La Réunion, Emmanuel Macron est sur place, nous appellerons notre envoyé spécial. La SNCF tire les leçons de l'accident de TER dans les Ardennes. Les équipements d'alerte radio seront renforcés en cas de choc. Et puis une association de consommateurs s'en prend aux barres de céréales. Beaucoup trop de sucre, trop peu de fruits. Les industriels peuvent-ils mentir impunément sur les étiquettes? Ce sera la question du 8h.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Quoi de plus déprimant qu'une chambre d'hôpital vide et impersonnelle à la veille d'une opération? Un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale propose de faire dormir les patients à l'hôtel, dans un cadre plus chaleureux. Deux avantages, Anaïs Bouissou, ce serait à la fois bénéfique pour le patient et pour les finances publiques.
Le but des hôtels hospitaliers, c'est de permettre à des patients qui vivent loin de l'hôpital, à plus de trois quarts d'heure de route, de rester à proximité d'un établissement, d'éviter les allers-retours, sans pour autant être hébergés dans un lit médical. Exemple, une femme enceinte dont l'accouchement est à risque, au lieu de la faire venir trois semaines en clinique en amont, elle pourrait ainsi séjourner dans l'hôtel d'à côté, moins anxiogène qu'un service médical et surtout moins cher pour la collectivité. Une nuit d'hôtel qui aurait signé un partenariat pourrait ainsi coûter 10 fois moins cher qu'une nuit d'hôpital. La patiente pourrait également être plus facilement entourée de sa famille. Et il n'y aurait pas de reste à charge, rien de plus à payer par rapport à une hospitalisation classique. Alors une expérimentation a déjà été lancée, mais elle ne concerne que quelques dizaines d'établissements testeurs. Elle n'a été que très peu développée jusqu'à présent. Si l'amendement est adopté, il restera encore à convaincre les hôpitaux de proposer plus souvent cette alternative.
Merci Anaïs Bouissou. Alors justement, parmi ces hôpitaux qui fonctionnent déjà en tandem avec des hôtels, il y a l'Institut Bergonié de Bordeaux, spécialisé dans la lutte contre le cancer. L'hôtel voisin propose aux malades des chambres à prix réduit. Nicolas Portolan est le directeur général adjoint de l'Institut Bergonié.
On décrit facilement qu'on ne séjourne plus à l'hôpital, on y passe. Nous pré-réservons 3 chambres par nuit, ce qui peut paraître peu, mais qui permet malgré tout d'avoir une mécanique très huilée et qui aujourd'hui est calibrée et répond à notre besoin. Notamment pour permettre aux patients qui viennent le plus loin de bénéficier d'un certain nombre de prises en charge la veille de leur intervention, puis de passer une nuit dans des locaux tout à fait confortables et adaptés, sans mobiliser l'ampleur d'un service hospitalier classique qui n'est pas forcément nécessaire.
Un propos recueilli par Jean-Marc Terrier à Bordeaux.
Surprenant et passionnant.
Matin, 8h02.
En Angleterre, le chauffeur du camion qui transportait des cadavres est toujours en garde à vue.
39 corps de ressortissants chinois retrouvés dans ce conteneur frigorifique mercredi matin dans la région de Londres. Il semble établi que le camion, la cabine, provenait de Dublin. Le chauffeur est irlandais. Il aurait récupéré la remorque au milieu de la nuit, remorque en provenance de Zeebruges en Belgique. Comment ce conteneur a-t-il pu passer au travers des contrôles? Le reportage d'Antoine Decarne à Zeebruges.
Sur le port de Zeebruges, si les camions continuent de se succéder, la question des contrôles, elle, est au centre des débats. Mais pour le bourgmestre, dire que de faux, les 39 personnes n'ont pas pu embarquer à l'intérieur du port.
On est convaincu que ça ne peut pas passer dans le port, surtout sur ce terminal-là. Ce terminal est très bien gardé, j'en suis sûr qu'ils ne sont pas montés ici.
Selon lui, il serait monté dans le camion frigorifique avant d'arriver sur le port, et sur ce genre de camion hermétique, la présence humaine est plus difficilement repérable à Zeebruges.
C'est quelque chose de spécial. Il est très bien isolé, il n'y a pas de possibilité que l'air entre dans ce box. Et je pense qu'avec quelque sorte de machine, on ne peut pas détecter ce qui est dans ce box.
Alors qu'à Calais, des scanners détecteurs de battements cardiaques sont utilisés pour ces camions réfrigérés, en Belgique, ce type de cargaison est simplement visionné à l'aide de caméras. Mais pour Joachim Koons, le patron du port de Zeebruges, ça ne peut pas suffire à expliquer le franchissement des contrôles.
Ça m'étonnerait, mais je suis tout à fait intéressé pour ce que la police va rechercher et voir ce qui s'est passé.
Une enquête importante pour la Belgique, devenue une nouvelle voie de passage pour les réseaux d'immigration clandestine.
Reportage signé Antoine Decarne. À chaque jour son coup de théâtre au pays du Brexit, Boris Johnson, forcé d'accepter un nouveau report de la sortie de l'Union européenne, c'était prévu dans une semaine, convoque des élections anticipées pour le 12 décembre, des élections législatives. Le Premier ministre espère renforcer sa majorité pour réaliser le Brexit qu'il souhaite. Aux États-Unis, 50 000 personnes ont dû être évacuées en Californie, des incendies ravagent en ce moment le nord de Los Angeles. 2000 hectares de broussailles sont déjà partis en fumée.
RTL matin, 8h05.
Des tensions dans la soirée sur l'île de la Réunion où se trouve Emmanuel Macron.
Vous êtes sur place, William Galibert, il y a eu des incendies et des affrontements.
Oui, d'énormes panaches de fumée noire, une déchetterie en flammes, une vingtaine de voitures calcinées dans une concession automobile cette nuit, un fast-food caillassé, des affrontements avec les forces de l'ordre à Saint-Denis et sur la commune du Port. Ce matin, l'Élysée balaye le sujet en parlant d'une quarantaine d'éléments violents ultra minoritaires. Emmanuel Macron, lui, va achever sa visite comme si de rien n'était, au milieu des porcs et des biquettes d'une exploitation agricole du sud de l'île.
Oui, troisième jour de visite d'Emmanuel Macron sur place à La Réunion. Merci William Galibert, envoyé spécial.
Un nouvel accident de TER, cette fois dans le département de la Loire.
À hauteur de Montbrison, le train a percuté hier une voiture sur un passage à niveau. Les deux occupants de la voiture ont été légèrement blessés. Et si l'on en parle, c'est parce qu'un accident similaire la semaine dernière dans les Ardennes a été à l'origine d'un débrayage de 3 jours chez les conducteurs qui dénoncent l'absence de contrôleurs à bord. La SNCF vient justement de publier son rapport interne sur cet accident. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour.
On en apprend plus sur les circonstances.
Oui, le conducteur du TER repère très vite un convoi exceptionnel immobilisé sur un passage à niveau. Immédiatement, il fait usage du sifflet, déclenche l'arrêt d'urgence. Mais trop tard, 6 secondes après, à 118 km/h, il percute de plein fouet le convoi. Le train s'arrêtera 400 mètres après le passage à niveau. 62 passagers sont à bord. Le conducteur tente de donner l'alerte par radio, mais le système ne marche pas. Il passe donc au plan B, sort par une fenêtre brisée, allume une torche à flamme rouge pour prévenir d'éventuels trains et appelle la gare de Charleville-Mézières. Il est blessé et les secours arriveront 24 minutes plus tard.
Alors maintenant qu'on sait tout ça, Arnaud, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, il y a plusieurs recommandations. Chaque conducteur est équipé d'un téléphone portable. Il est souhaitable que les numéros à appeler en cas d'urgence soient bien clairs en fonction du lieu où se trouve le conducteur. Autre point à améliorer, les équipements d'alerte radio et lumineux. Ils doivent être mieux protégés en cas de choc. La compagnie ferroviaire va y travailler rapidement avec le constructeur Bombardier. Enfin, le document qui détaille les conduites à tenir par les conducteurs en cas d'accident sera simplifié pour être encore plus efficace.
Merci Arnaud Touche.
Et nous revenons sur toutes ces question. Avec notre débat de 8h20, la SNCF est-elle armée pour l'avenir ? Nous serons avec le secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots et Marc Fressoz, qui est lui journaliste spécialiste des transports.
Le prof d'un lycée de Nancy a été mis en examen pour viol et des agressions sexuelles sur 5 élèves. Il a été placé en détention. Les faits se seraient déroulés sur 7 ans, entre 2012 et 2019.
Après la pause, gare aux étiquettes.
RTL 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Avis à la population et en particulier aux amateurs de barres de céréales.
Alors, vous vous apprêtez peut-être à partir au travail en mettant dans votre sac ces barres alléchantes qui vous promettent de l'énergie pour toute la journée. Mm-hmm. Gare aux arnaques, prévient l'association de consommateurs CLCV qui a passé au crible 68 produits. Les étiquettes annoncent beaucoup de fruits et très peu de sucre. C'est plutôt l'inverse. Lisa Follet de la CLCV.
Ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se positionnent sur le côté un peu nutrition, un peu diététique. Donc, qui mettent en avant des mentions comme, par exemple, l'absence d'huile de palme, donc ce qui est très bien. Que c'est un produit qui apporte des fibres, que c'est un produit qui a un bon goût de myrtille, par exemple. Alors qu'en réalité, dans le produit, on a 0,7% de concentré de myrtille. Donc, on perd tout l'intérêt nutritionnel, en fait, du fruit sous cette forme ultra transformée. Et c'est un produit qui est gras, sucré et avec aussi beaucoup d'additifs.
Et il y a quelques semaines, c'est une autre association, Foodwatch, qui dénonçait les faux bouillons de cube à l'huile d'olive, en réalité bourrés d'huile de palme.
Alors, des contrôles existent-ils ? Les industriels sont-ils sanctionnés lorsqu'ils mentent sur l'emballage ? Eh bien, c'est la question du 8h.
Avec vous, Sophie Jousselin, bonjour. Les fabricants peuvent tricher comme ça, en toute impunité, sur les étiquettes ?
Eh bien oui, puisqu'il n'y a pas de règles précises en termes d'affichage, les industriels peuvent choisir de mettre en avant myrtille, framboise, pêche et qualifier leurs produits de riches en fruits ou afficher des céréales et ajouter l'allégation riche en fibres, alors qu'en réalité ces gâteaux, biscuits ou bars sont surtout riches en gras et en sucre. C'est pour cela que la CLCV demande plus de réglementation, par exemple qu'un industriel ne puisse afficher des fruits sur l'emballage que si le produit en contient un pourcentage minimum. Pour l'instant, seul risque pour les professionnels indélicats, celui d'être montré du doigt. Et parfois ça marche. Un géant de l'alimentaire qui vendait des yaourts aux fruits, sans fruits mais avec des arômes, tout en affichant des fraises et des abricots sur l'emballage, a finalement ajouté des vrais fruits à ses produits.
Alors on va faire nos courses tout à l'heure avec Yves Calvi. Comment oui. On s'y retrouve dans tout ça ?
Eh bien, ne vous contentez pas de regarder l'emballage, mais scrutez scrupuleusement l'étiquette. Si les fruits apparaissent en premier dans la liste des ingrédients, c'est qu'ils qu'ils sont présents en quantité conséquente. Fiez-vous aussi au Nutri-Score, cet étiquetage aujourd'hui encore optionnel, qui évalue la qualité nutritionnelle des produits. Si un produit est noté C, il est bien meilleur pour la santé qu'un produit noté E.
La question de 8h avec Sophie Jousselin. On va aller faire nos courses.
Les vins aromatisés bientôt taxés. Un amendement a été voté à l'Assemblée. Ces vins type rosé, pamplemousse et blanc pêche sont très populaires chez les jeunes. Une bouteille vendue aujourd'hui 2 euros coûtera 3,75 euros. En football, mauvaise soirée pour Saint-Etienne et Rennes en Ligue Europe. Un partout entre les Verts et les Ukrainiens d'Oleksandria. Ils finissent derniers de leur groupe. Même punition pour Rennes, battu par les Roumains de Cluj, 1-0.
Voulez-vous nous conter l'histoire du jour ?
Un député a-t-il le droit de faire sa pub ? La réponse est oui. Mais a-t-il le droit de faire de la pub ? Là, c'est plus compliqué. C'est pourtant ce qu'a fait une élue du Rhône, la députée LREM Anne Bruniera, en posant dans le magazine Nouveau Lyon au volant d'un 4x4 rutilant d'une grande marque. On y apprend, photo à l'appui, qu'elle apprécie les lignes, son confort intérieur et la sécurité de ses options. Du pain béni pour l'opposition qui crie au scandale. Elliot Aubin, élu de la France Insoumise.
Je trouve consternant de la part d'une députée qu'on puisse agir de la sorte pour une pub pour une entreprise privée, qui plus est pour un SUV, une voiture polluante. Donc je pense que c'est ni le rôle d'une députée, ni aller dans le sens d'un souci de l'environnement et d'un souci écologique. C'est plus de l'ordre du ridicule et du consternant. Elle a tout faux sur toute la ligne, quoi.
Propos recueillis par Gauthier de Lombuga. Alors, la députée s'est depuis confondue en excuses. Elle affirme qu'elle n'a pas été payée et qu'elle aurait dû refuser la proposition du journal. Le Nouveau Monde doit encore se familiariser avec les vieilles règles.
Oui, elle rutile au volant de
Absolument,
son véhicule.
Elle a l'air très heureuse.
Voilà, très heureuse. Elle a
On
passé
va lui apprendre les bonnes
conduites. Je crois qu'elle a parfaitement compris. C'était le journal de Jérôme.